Vous écoutez On lit pour vous.
Envie de sucre? Selon une étude, les pâtisseries pourraient être un meilleur choix que les sodas. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 23 avril 2026 dans Science et Vie. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité mondiale, sont souvent évitables par des modifications du mode de vie, notamment alimentaire. Une étude suédoise récente s'intéresse à l'impact des sucres ajoutés sur ces maladies, révélant des différences significatives selon leurs sources. Les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de décès au niveau mondial. La plupart de ces maladies sont évitables en agissant sur certains facteurs de risque liés au mode de vie. L'alimentation en fait partie. Mais dans quelle mesure la consommation de sucre contribue-t-elle au risque cardiovasculaire? Une équipe de chercheurs suédois s'est penchée sur la question. Ils ont constaté que l'effet des sucres ajoutés sur la santé diffère totalement selon leurs sources. Saccharose, sirop de glucose fructose, aspartame, dextrose, sirop de mélasse, concentré de jus de fruits. Les sucres ajoutés sont partout et se présentent sous plusieurs formes. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES, plus de trois quarts des produits contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré. Or, une consommation élevée de sucre peut entraîner à court terme des caries dentaires. À plus long terme, l'excès de sucre augmente le risque de développer un surpoids, voire une obésité, et des maladies métaboliques chroniques connexes, diabète. Les recommandations relatives à l'apport en sucre varient d'un organisme de santé publique à l'autre dans le monde. L'ANSE recommande aux adultes et adolescents de ne pas dépasser 100 grammes de sucre par jour. L'Organisation mondiale de la santé recommande, quant à elle, de ramener l'apport quotidien en sucre libre, tous les sucres ajoutés, ainsi que les sucres naturellement présents dans le miel, les sirops, les jus de fruits et les concentrés de jus de fruits, à moins de 10 % de la ration énergétique totale chez l'adulte et l'enfant. Il serait encore meilleur pour la santé de réduire cet apport à moins de 5 %, soit à 25 grammes environ. Des preuves rares et peu concluantes. Plusieurs études ont révélé une relation dose-réponse entre la consommation de sucre ajouté et libre et l'obésité et la dyslipidémie. D'autres ont trouvé des associations entre la consommation de boissons sucrées et l'obésité, le diabète de type 2, l'hypertension et l'incidence des maladies cardiovasculaires. En revanche, les preuves concernant la consommation de sucre et le risque de maladies cardiovasculaires sont rares et peu concluante. En outre, le peu d'études sur le sujet ne comportait qu'une seule évaluation du régime alimentaire au départ. On a ainsi considéré que cette évaluation était représentative du régime alimentaire des participants au fil du temps. L'objectif de cette nouvelle étude était donc d'examiner les éventuelles associations entre la consommation de sucre ajouté et le risque de plusieurs types de maladies cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral ischémique, accident vasculaire cérébral hémorragique, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, sténose aortique, fibrillation auriculaire et anévrisme de l'aorte abdominale. La population étudiée, issue de deux grandes études de cohortes suédoises, englobait 69 705 participants, dont 47,2 % de femmes, âgés de 60 ans en moyenne. L'IMC moyen était de 25,3 kg par mètre carré. Le régime alimentaire a été évalué à deux moments, en 1997 et 2009, pour la majorité des participants. Au départ, la consommation moyenne de sucre ajouté était de 9,1 % de l'apport énergétique total. En 2009, elle était de 6,8 %. Les plus grands consommateurs de sucre ajouté avaient tendance à être des hommes avec des niveaux d'exercice plus élevés et un niveau d'éducation plus faible que les plus petits consommateurs de sucre ajouté. Un risque d'anévrisme de l'aorte abdominale majoré de 31 %. Au cours de la période de suivi, 25 739 participants ont reçu un diagnostic d'au moins une maladie cardiovasculaire. Pour étudier les associations entre l'apport en sucre et l'incidence des maladies, l'équipe a établi trois modèles. Le modèle principal tenait compte de l'ensemble des paramètres, à savoir l'âge, le sexe, l'apport énergétique total, les facteurs liés au mode de vie, l'IMC et les facteurs alimentaires. Dans ce modèle, les chercheurs ont trouvé des preuves d'association linéaire positive entre la consommation de sucre ajouté et le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique et d'anévrisme de l'aorte abdominale. Pour des apports en sucre ajouté excessif supérieurs à 20 %, le risque d'anévrisme de l'aorte abdominale augmentait de 31 % par rapport à la consommation la plus faible, plus petite ou égale à 5 %. Pour des apports en sucre ajouté supérieurs à 15-20 %, le risque d'accident vasculaire cérébral ischémique augmentait de 9 %. Les chercheurs n'ont trouvé aucune association entre la consommation de sucre et le risque d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Ils soulignent par ailleurs qu'une consommation très faible, proche de zéro, en sucre, correspondait au risque maximal pour chaque maladie. Cela suggère, au passage, de ne pas totalement bannir le sucre de son alimentation, car cela ne semble pas bénéfique. Les risques les plus faibles correspondaient à un apport en sucre faible à modéré, plus grand que 5-7,5 %. Un risque porté par les boissons sucrées. Les chercheurs ont ensuite analysé les résultats en distinguant les différentes sources de sucre ajouté. Ils ont observé qu'une consommation élevée de boissons sucrées, plus de 8 portions par semaine, augmentait le risque d'AVC ischémique, plus 19 %. Elle augmente également le risque d'insuffisance cardiaque, plus 18 %, de fibrillation auriculaire, plus 11 %, et d'anévrisme de l'aorte abdominale, plus 31 %. À l'inverse, la consommation de quelques friandises, pâtisseries, tendait à réduire le risque de toutes les maladies considérées. Les consommateurs de 2 portions ou moins par semaine présentaient les risques les plus élevés. Ce contraste surprenant souligne l'importance de tenir compte non seulement de la quantité de sucre consommée, mais aussi de sa source et de son contexte, relève Suzanne Janzi, chercheuse à l'Université Lund et première auteure de l'étude. Les sucres liquides que l'on trouve dans les boissons sucrées procurent généralement moins de satiété que les formes solides, c'est-à-dire qu'ils donnent l'impression d'être moins rassasiés, ce qui peut conduire à une surconsommation. Le contexte joue également un rôle. Les friandises sont souvent consommées dans un cadre social ou lors d'occasions spéciales, alors que les boissons sucrées peuvent être consommées plus régulièrement, ajoute la chercheuse. La consommation de garnitures sucrées, comme le miel par exemple, semblait elle aussi réduire le risque de certaines maladies, comme l'insuffisance cardiaque, moins 10 % et la sténose aortique, moins 15 à moins 20 % selon les quantités consommées, par rapport à la consommation la plus faible, plus petite ou égale à 2 portions par semaine. Le risque d'anévrisme de l'aorte abdominale augmentait quant à lui de 34 % en cas de consommation excessive, plus grande que 28 portions par semaine. Des mécanismes biologiques qui restent à éclaircir. En résumé, les associations varient en fonction de la maladie considérée et de la source de sucre ajouté. Il apparaît que les boissons sucrées sont plus néfastes pour la santé cardiovasculaire que toute autre forme de sucre. Consommer beaucoup de ces boissons augmenterait de manière significative le risque de 4 maladies cardiovasculaires. Parallèlement, les personnes consommant occasionnellement des friandises étaient en meilleure santé que celles qui n'en mangeaient pas du tout. Cela pourrait refléter des comportements alimentaires sous-jacents. Les personnes qui consomment très peu de sucre pourraient avoir des régimes très restrictifs ou limiter le sucre en raison de problèmes de santé préexistants, pense Jean-Zi. La recherche a soulevé plusieurs hypothèses pour expliquer les associations entre les sucres ajoutés et le risque de maladies cardiovasculaires. L'une d'elles repose sur le métabolisme particulier du fructose, un sucre ajouté courant. Le foie le convertit en glycérol 3-phosphate qui sert de base à la synthèse des triglycérides. Ainsi, le taux de triglycérides augmente, entraînant un risque cardiovasculaire accru. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour comprendre comment les différents types de consommation de sucre impactent la santé. L'étude devra également être poursuivie auprès d'autres populations, car le régime alimentaire étudié ici est très spécifique. Nos résultats sont basés sur une population suédoise, dont les habitudes alimentaires et les facteurs liés au mode de vie peuvent différer de ceux d'autres populations, a déclaré Jean-Zi. La coutume sociale du fika, une pause café-pâtisserie, est en effet profondément ancrée dans la culture suédoise. Ainsi, les résultats peuvent ne pas être directement transposables à d'autres populations. En attendant, le fait de savoir qu'il existe des liens entre la consommation de sucre ajouté et le risque de maladies cardiovasculaires pourrait contribuer à l'élaboration de futures recommandations nutritionnelles. C'était « Envie de sucre ». Selon une étude, les pâtisseries pourraient être un meilleur choix que les sodas. Un texte de Fleur Brosseau, paru le 23 avril 2026 dans Science et Vie.
La guerre du futur fait rage maintenant. Un dossier d'Alexandre Sirois, publié dans la presse du 22 mars 2026. En sous-titre, l'intelligence artificielle joue désormais un rôle crucial sur le champ de bataille. Un constat qui pose des questions urgentes sur la façon de s'assurer que le contrôle des opérations militaires demeure pleinement entre les mains des humains. Premier texte de la série, l'intelligence artificielle change la nature de la guerre. Et si un jour un pays s'en remettait à une intelligence artificielle avancée pour gagner une guerre, et s'il lui confiait à la fois la conception de la stratégie et le contrôle du matériel militaire? Le scénario est évoqué en entrevue par le professeur David Scott Gruger. Il le fait suivre de deux autres interrogations encore plus troublantes. Citation : Est-ce que ça compte comme gagner la guerre si vous tuez tout le monde sauf le président ? Est-ce que ça compte comme gagner la guerre si vous faites quelque chose qui change complètement le monde d'une manière qui le rend presque méconnaissable? Car les objectifs d'une superintelligence artificielle qui contrôlerait éventuellement l'armée d'un pays ne s'enligneraient peut-être pas avec ceux des dirigeants de ce pays, estime-t-il. La tendance actuelle comporte des pressions compétitives qui continuent de nous pousser sur la voie de systèmes qui peuvent prendre des décisions et passer à l'action directement sur la base de ses décisions. Fin de citation. Autre citation, ils sont très intelligents. Ils comprennent assez bien le monde, mais n'ont pas nécessairement les intérêts de l'humanité de leurs créateurs, de leurs utilisateurs ou de ceux qui sont censés les contrôler à cœur. Fin de citation. David Scott Gruger est un des chercheurs qui estime que l'humanité est en train de jouer à la roulette avec sa propre survie. Ce professeur adjoint au département d'informatique de l'Université de Montréal explique avoir récemment pris un congé sans solde pour fonder en Californie une organisation à but non lucratif baptisée Évitable. Son objectif? Mettre en lumière, citation, les risques de l'intelligence artificielle à l'échelle de la société, fin de citation, et lutter contre le développement de la super-intelligence. Dans ce contexte, l'usage militaire de l'intelligence artificielle est une des choses qui l'inquiète énormément. Citation, beaucoup de gens se demandent toujours comment l'intelligence artificielle, même advenant le fait qu'elle devienne incontrôlable, pourrait tuer tout le monde. Je pense qu'il est très évident que cela pourrait arriver si elle contrôle l'armée, lance-t-il, fin de citation. On n'en est pas là, rassurez-vous. Et tous les experts ne sont pas aussi alarmistes que David Scott Gruger. À quel point l'intelligence artificielle est-elle déjà intégrée dans le domaine militaire? Et vers où cela peut-il nous mener? J'ai fait le point avec une demi-douzaine d'experts de la question au cours des dernières semaines. Citation, sans l'intelligence artificielle, même si vous voulez lancer un tapis de bombe, carpet bombing, vous ne pouvez pas le faire sans enfreindre le droit international. Or, ce que l'IA vous permet, c'est de produire le même effet, car à chacun des points de ce tapis de bombe, vous avez une justification qui vous permet d'expliquer pourquoi vous pouvez le bombarder. Fin de citation. Sébastien Ben Daniel est un informaticien israélien qui suit de près l'intégration de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille et qui ne s'est jamais gêné pour critiquer les méthodes des forces armées israéliennes. Il a aussi collaboré au cours des dernières années à Plus 972, un magazine d'information indépendant numérique israélien qui a révélé l'existence de certains outils d'IA développés et utilisés par l'armée de l'État hébreu lors de l'offensive à Gaza, lancée à la suite des attaques du Hamas contre Israël en octobre 2023. L'un de ces outils controversés se nomme la Vendor. Il n'a rien, mais alors absolument rien à voir avec l'inoffensive plante à fleurs dont on s'est inspiré pour le baptiser. Il y a 2 ans, il a été décrit par le Plus 972 comme, guillemets, la machine d'intelligence artificielle qui orchestre la frénésie de bombardement d'Israël à Gaza. Fin de citation. Si vous voulez des preuves que la nature de la guerre est en train de changer en raison de l'intégration d'outils d'intelligence artificielle, ne cherchez pas plus loin. Selon des sources au sein des services de renseignement de l'armée israélienne, citées par le magazine Plus 972 et par le quotidien britannique The Guardian il y a 2 ans, Lavender a été utilisé pour choisir les cibles à abattre, et pas qu'un peu. Durant les premières semaines de la guerre à Gaza, l'armée israélienne, citation, s'est presque entièrement appuyée sur Lavender, qui a désigné près de 37 000 Palestiniens comme des militants présumés, ainsi que leur domicile pour d'éventuelles frappes aériennes, a rapporté un journaliste de Plus 72. Il a aussi mis au jour une autre donnée troublante. Une source lui a dit qu'à l'époque, les humains impliqués, citation, ne consacraient personnellement qu'environ 20 secondes à chaque cible avant d'autoriser un bombardement. Fin de citation. Les chiffres du nombre de frappes effectuées à Gaza grâce à l'intelligence artificielle sont saisissants, estime Sébastien Ben Daniel. Citation, vous pouvez avoir, dès le premier jour, 1000 cibles, alors qu'avant cette guerre, cela vous aurait pris, genre, 20 ans. C'est le premier changement évident de l'IA utilisé dans la guerre. L'échelle et la vitesse à laquelle vous pouvez faire ça. Fin de citation. Le deuxième changement notable, selon cet informaticien, c'est que la nature des cibles a changé. Citation, avant l'intelligence artificielle, parce que c'était si coûteux d'enquêter sur les cibles, vous ne faisiez ça que pour des gens très importants, comme le chef du Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, ou le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Dieff, ou des gens comme ça, signale-t-il, fin de citation. L'un des résultats de ces changements, c'est qu'un plus grand nombre de frappes se traduit, en tenant compte des quasi inévitables dommages collatéraux lors des bombardements, par un plus grand nombre de victimes civiles. Il est utile de rappeler ici que le nombre de victimes de la guerre à Gaza, au plus fort du conflit d'octobre 2023 jusqu'au cessez-le-feu d'octobre 2025, s'est établi à plus de 70 000 selon le ministère de la Santé de Gaza. Et la majorité de ces victimes, selon diverses estimations, dont une étude publiée le mois dernier par The Lancet Global Health, étaient des femmes, des enfants et des personnes âgées. Fin de ce premier texte du dossier « La guerre du futur fait rage maintenant », titré « L'IA change la nature de la guerre », texte signé Alexandre Sirois, publié dans la presse du 22 mars 2026.
En juin, je lis Autochtones, 6 suggestions de livres jeunesse de divers éditeurs. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtones. 1. Kaboom, décollage de Jay Ojik et K.C. Auster, traduction d'Hélène Rioux, édition scolastique dès 8 ans. Voici Kaboom, Zach Komoda, agent du Réseau, regroupement d'espions pour la sauvegarde de l'environnement autochtone universel et le nouveau super-enfant du voisinage. Enfin, en quelque sorte, il est encore en train d'apprendre. Lorsque nous rencontrons Zach, il est pris en charge par sa tante Jess, qui est très cool, et il rêve de ressembler à son héros, Constantin Pierce, le roi de la techno. Les parents de Zach sont partis, une fois de plus, pour leur importante carrière dans la vente de frigos. Zach est loin de connaître leur véritable identité. Loup gris et oiseau de l'ombre sont des agents du réseau en mission pour protéger des artefacts autochtones d'un infâme pilleur de tombes. 2. Johnny et Jesse reçoivent un message de Corbeau, de Johnny Aitken et Jess Willows, traduction de Michel Marino, Orca Books Publisher, dès 8 ans. Dans ce mini-roman partiellement illustré, une fillette récemment déménagée dans une petite communauté insulaire se lie d'amitié avec un jeune autochtone de la région au cours des vacances d'été. Quand ils commencent ensemble leur 4e année du primaire, ils doivent, au fil de leurs aventures, faire face à plusieurs défis et préjugés. 3. La folle journée de Wadaron, d'Isabelle Picard et Meki Ottawa, Bayard Canada, dès 6 ans. Wadaron rêve d'une seule chose, écouter les légendes que son grand-père raconte aux plus grands lors des veillées d'été. Mais ses parents le trouvent encore trop jeune pour ces histoires qui donnent des frissons. Ce soir, c'est le dernier feu avant l'hiver et toute la famille sera réunie autour de la bannique et des récits du grand-père. Déterminé à prouver qu'il est assez grand, Wadaron multiplie les efforts, quitte à semer un peu de pagaille au passage. 4. Tout le monde aime Kisaki Itona de Julie Flette, traduction de Fanny Britt, les éditions de la Pastèque dès 6 ans. Dans cette histoire, des oursons, des canetons, des renards et plein d'autres créatures adorables nous montrent toutes les manières dont l'amour s'exprime. À travers la poésie des mots et la beauté des illustrations, Tout le monde aime nous rappelle les liens qui unissent tous les êtres vivants, nous révèle que le soin et l'affection existent partout dans la nature et célèbre cet amour qui nous définit. Nous aimons, nous aussi. 5. Mon Indien, de Michelle Joey et Sheila O'Neill, traduction de Jean-François Cyr, édition Bouton d'or, Acadie, dès 11 ans. En 1822, William Epps Cormack fit appel à Silver Star Joe pour le guider à travers Terre-Neuve à la recherche des derniers campements béotiques de l'île. Dans son journal, Cormack n'utilise que « mon Indien » pour désigner son guide. Aujourd'hui, près de 200 ans plus tard, Michelle Joe et Sheila O'Neill se réapproprient l'histoire du guide Mi'kmaq engagé par Cormack. Dans une remarquable fiction historique, Mon Indien retrace la vie de Silver Star Joe depuis sa naissance et ses débuts dans sa communauté, aujourd'hui sous le nom de Première Nation de Miapukek, jusqu'à son voyage avec Cormack. 6. Les Kodiak, l'avantage de l'Atlas, de David A. Robertson, traduction d'Eva Lavergne, collection Pigeon Voyageur, édition David, dès 10 ans. Tout change pour Alex Robinson. Sa famille quitte sa communauté autochtone et s'installe à Winnipeg. Pour la première fois de sa vie, il n'arrive pas à s'adapter. Ses camarades de classe ne comprennent pas la culture autochtone. Les choses s'améliorent lorsqu'Alex s'inscrit dans une équipe de hockey, les Kodiaks. Il en devient rapidement l'un des meilleurs joueurs, mais il doit aussi faire face à des remarques racistes. Parviendra-t-il à s'intégrer tout en demeurant la personne qu'il est? Ce roman, rempli d'action comme une bonne partie de hockey, mêle habilement le sport et l'humour à des leçons de vie et à des suggestions pour rendre le monde meilleur. C'était « En juin, je lis Autochtone », 6 suggestions de livres jeunesse de divers éditeurs. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtone.